Bonjour et merci à Jessie pour cette introduction. Alors effectivement, je vais vous présenter l'exposition Vision Fugitive, mais étant donné que cette exposition est dans la pièce à côté, il me semblait un petit peu absurde de vous montrer des extraits de films que vous avez la possibilité de voir dans leur intégralité, dans la mesure où ils ne sont pas très longs, en tout cas pour la majorité d'entre eux, et encore plus absurde de vous montrer des photos d'installations. L'installation étant un dispositif qui est fait pour être expérimenté physiquement par le visiteur, la voir en photo est toujours moyennement intéressant. Donc je vous invite vraiment très très vivement à aller voir l'exposition. Ce que je vais faire ce matin, c'est simplement vous en indiquer les grands axes, les grandes lignes qui nous ont permis à Pascal Prenier et à moi, puisque nous avons conçu cette exposition ensemble, de sélectionner les œuvres, de construire cette exposition. Ce que je voudrais dire, c'est que pour moi, une exposition, il n'a pas de sens de la construire en ayant forcément, a priori, la volonté d'illustrer une thématique. Je ne pense pas que les œuvres soient faites pour illustrer des thématiques. Il me semble plus intéressant de partir des œuvres pour déterminer justement ces axes thématiques. C'est comme ça que nous avons travaillé en tout cas, et à partir d'œuvres qui nous semblaient particulièrement pertinentes, nous avons dégagé quelques axes, et c'est ça que je vais vous présenter ce matin. Alors j'ai fait le choix justement de ne pas vous montrer d'extraits de films, et donc de ne vous montrer que des images fixes, à l'exception de ce que vous avez vu défiler à l'écran pendant que vous vous installiez au tout début, et dont vous avez bien compris, et qui apparemment ne veut pas revenir à l'image pour le moment. Il a disparu, c'est une vision encore plus fugitive que ce que j'avais imaginé. Et c'était un écran de veille, vous l'avez vu. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous montrer cet écran de veille? D'abord parce que dans une journée sur les rémanences, ça me semblait adéquat, étant donné que, vous, comme vous le savez tous, un écran de veille, c'est fait pour éviter justement les rémanences, éviter les effets de persistance et d'empreinte d'une image qui serait restée trop longtemps sur un écran et qui risquerait justement d'apparaître comme des fantômes au milieu d'œuvres qui sont présentées ultérieurement. Donc cet outil anti-rémanence, il nous intéresse aussi en tant qu'œuvre. Il s'agit d'une œuvre de Francis Alice. Donc je vais passer, comme on n'a plus l'écran de veille, je vais passer directement là-dessus. Il s'agit d'une œuvre de Francis Alice qui est présentée dans l'exposition, mais où vous n'allez vraisemblablement pas la voir parce que vous êtes extrêmement nombreux, et qu'elle est présentée sur un écran sur lequel est présentée une œuvre interactive qui est celle d'Angelo Plessas, œuvre interactive permettant de dessiner soi-même et de créer une musique. Et je crains donc pour Francis Alice que la souris ne soit toujours entre les mains d'un visiteur et donc que vous ne la voyez pas. Alors pourquoi est-ce que cette œuvre d'Alice nous intéresse? Pourquoi est-ce que nous avons choisi de la présenter sous forme d'écran de veille? Parce que c'est sa nature, elle a été conçue pour ça. Elle a été conçue par cet artiste à la suite d'une invitation qui lui a été faite par la The Art Foundation, qui est une institution d'art contemporain américaine, et qui a constitué dès la fin des années 90 une collection de net art. Ça a été un des premiers musées, enfin en tout cas c'est une fondation, mais qui a une collection. Ça a été une des premières collections tout à fait officielles, institutionnelles, à constituer une collection de net art. Et la réponse de Francis Alice à cette invitation a été de dire, moi je vais faire un écran de veille. Je vais faire un écran de veille qui sera téléchargeable sur le site de la Fondation et qui est donc une sorte de cadeau fait aux internautes. Et vous pouvez vous aussi télécharger cet écran de veille si ça vous amuse. Ça, c'est une chose qui nous a intéressé dans l'exposition. Ça a été de montrer qu'aujourd'hui, l'animation, elle est présente au cinéma, elle est présente dans les expositions d'art contemporain, elle est aussi, de plus en plus, et vous le savez peut-être encore mieux que moi, présente sur Internet. Et beaucoup d'artistes choisissent aujourd'hui de faire des œuvres qui sont conçues spécifiquement pour Internet. Et, comme je viens de vous le dire, des institutions relayent ce désir des artistes en les invitant à faire des œuvres spécialement conçues pour Internet. Ça nous a semblé extrêmement important dans l'exposition de rendre compte de des diverses manières que nous avons de prendre connaissance des images animées. Et en prendre connaissance sur un écran d'ordinateur, c'est aussi une pratique dont nous souhaitions rendre compte. Et vous le verrez, quand vous verrez l'exposition, il y a des œuvres qui sont présentées sur des écrans d'ordinateur. L'autre chose qui nous intéresse dans l'œuvre de Francis Alice, et pour la raison pour laquelle je souhaitais en parler dès le début de cette intervention, indépendamment du clin d'œil au titre de la journée d'étude, c'est que Francis Alice est un de ces artistes qui ne nie pas l'héritage. Et s'il s'agit d'une œuvre anti-rémanence, il ne s'agit pas d'une œuvre anti-réminiscence ou anti-référence, bien au contraire. C'est pour ça que je vous montre là, avec cette première diapo, ce qui est la source de ce voleur de Francis Alice. Et la source est un dessin d'Alberti. Alberti, théoricien de la Renaissance, théoricien de la perspective, à partir de laquelle s'est déterminée cette conception de la peinture comme une fenêtre ouverte sur le monde, même si c'est pas lui qui a dit ça. Fenêtre ouverte sur le monde de la peinture occidentale qu'Alice met en relation avec les fenêtres de nos ordinateurs. C'est pas par hasard si certains logiciels, pardon pour la publicité, s'intitulent Windows. Donc Francis Alice affirme par cet écran de veille que les images d'aujourd'hui, les images en ligne, les images animées, et y compris on va le voir les images en 3D, ne sont pas un milieu des traditions picturales. Or c'est un des axes de l'exposition. C'est un des axes de l'exposition et vous allez voir qu'un certain nombre d'œuvres posent cette question montre des fenêtres. Question de la perspective, elle est présente notamment dans ce film en images de synthèse réalisé par deux artistes, Christian Rizzo, que certains connaissent peut-être comme chorégraphe et plasticien français, et Yuan Hao Chang, qui est un artiste taïwanais. Ces deux artistes ont travaillé ensemble à plusieurs reprises. On a déjà eu la possibilité de voir au Fresnois d'ailleurs des installations qu'ils avaient réalisées ensemble, puisque Christian Rizzo a été professeur invité ici et artiste professeur invité. Et l'œuvre que nous présentons, plus exactement les deux œuvres, puisqu'il y a un paysage 1 et un paysage 2, ont été conçues par ces deux artistes pour être présentées d'abord à l'intérieur d'un jardin à Tokyo. C'était une projection en plein air d'un jardin, d'une certaine manière, sur un jardin. Alors, que font Christian Rizzo et Yuan Hao Chang? Encore une fois, je ne vous le montre pas en animation parce qu'il faut aller, voir l'œuvre. Ils nous présentent une réflexion, justement. Ce sont des œuvres en images de synthèse. Ce sont des œuvres qui nous font pénétrer dans un espace qui est un espace en perspective, mais dont on découvre très vite qu'il s'agit, en fait, d'objets plats, puisqu'ils vont tous, les uns après les autres, se réduire, comme vous le voyez ici, à des feuilles totalement plates. Et on découvre, on le voit bien d'ailleurs quand on voit la section, la base des troncs, ou quand on voit d'autres images, qu'il s'agit d'une série d'objets plats. Alors pourquoi la présentation de ce travail de cette manière? Parce que la différence de culture, la différence de conception et de convention de la représentation et de la représentation de la profondeur dans la peinture chinoise et dans la peinture occidentale sont l'un des sujets de réflexion commun de ces deux artistes qui travaillent ensemble, encore une fois, depuis quelques années. Et donc, le projet a été de réaliser un paysage avec des outils contemporains, des images 3D, un paysage dans lequel on s'enfonce, dans lequel on pénètre, et on se découvre progressivement qu'il ne s'agit que d'images plates. Donc une réflexion sur les conventions de la représentation et de la représentation de l'espace et de la profondeur en particulier, sur les conventions différentes des différentes cultures. Si vous voyez des paysages de ce genre, l'influence de la peinture chinoise y est encore plus évidente. Donc réflexion sur la différence de convention entre les différentes cultures, mais aussi réflexion sur les illusions des images de synthèse, puisqu'on découvre en pénétrant dans ce paysage son caractère totalement illusoire. Alors cette question de l'illusion de l'image de synthèse et de la représentation, c'est aussi quelque chose que vous allez retrouver dans l'exposition et qui va nous amener inévitablement à une réflexion de manière plus générale sur les technologies, à une réflexion sur la question de l'obsolescence d'un certain nombre d'outils que vous trouverez dans certaines œuvres, à la question aussi de ces illusions, de ces risques, des illusions du monde virtuel, et aussi à la question du pouvoir, de la maîtrise et en même temps de la perte de pouvoir que l'homme risque de vivre, de ressentir devant le pouvoir de certaines technologies. Mais avant ça, je voudrais expliquer un petit peu, et le titre et le sous-titre. Le sous-titre, vous l'avez déjà compris, on va aller d'un dessin animé qui est un dessin animé très traditionnel, puisque dans la série consacrée, dans le salon consacré aux pionniers de l'animation, on présente Fantasmagorie d'Emile Cole, qui est le premier dessin animé cinématographique, dont je ne vous montre pas d'image et dont je ne vous parle pas, puisque ça fera l'objet d'une communication à lui tout seul. Mais on va jusqu'à 2011, et j'insiste même sur le fait que la moitié des œuvres datent de 2009 ou depuis 2009. Donc beaucoup d'œuvres contemporaines, et l'exposition a volontairement choisi, ça a été un des axes de travail que nous avons eu, Pascal Prenier et moi, l'exposition a délibérément choisi de faire un panorama, pardon, Netto Frénois, mais de faire un panorama d'animation sous toutes ses formes d'un point de vue technique, c'est-à-dire du dessin réalisé à la main, filmé image par image, la technique la plus traditionnelle, jusqu'à ce qui utilise les technologies contemporaines, non seulement l'image 3D, l'image de synthèse, mais aussi l'interactivité. Et je n'insiste pas sur l'œuvre de Laurent Pernault, Chronorama, puisqu'il sera là cet après-midi pour vous en parler, mais il s'agit d'une installation interactive. L'image de synthèse, la 3D, le temps réel, je reviendrai tout à l'heure sur cette œuvre de John Gerhardt, que vous avez surtout la possibilité de voir, encore une fois, dans l'exposition. Donc, toutes ces nouvelles technologies, elles sont présentes dans l'exposition. Alors, la question était évidemment de faire le lien entre tout ça et de pas simplement donner à voir des techniques différentes, parce que c'est pas très intéressant d'un point de vue thématique ou artistique, mais de le faire tout en centrant sur une ligne, sur une thématique qui nous semblait véritablement essentielle à l'animation. Et ce qui s'est dégagé des longs visionnages qu'on a pu faire, ce qui s'est dégagé de la sélection que sur des critères artistiques, des critères de sensibilité, d'intérêt de propos nous avions fait, c'est que lorsque des artistes qui ne sont pas uniquement des artistes faisant de l'animation choisissent ce médium-là, ils le choisissent essentiellement pour son évanescence. D'où le titre de ces visions fugitives. Visions fugitives qui évoquent l'évanescence des images qui sont les images de dessin animé. Il ne s'agit pas de dire que l'image de dessin animé serait plus fugace que l'image de cinéma en prise de vue réelle, ça n'aurait pas de sens, mais de dire que l'animation permet beaucoup plus facilement que la prise de vue réelle, de nous montrer l'apparition d'une forme et sa disparition, de nous montrer sa transformation, d'où évidemment le choix qui a été fait du dessin animé, chaque fois qu'il s'est agi d'adapter à l'écran un conte, chaque fois qu'on a été dans le registre du merveilleux qui nous présentait des métamorphoses. Cet axe-là n'a pas été gardé dans l'exposition de manière délibérée. On y fait juste une petite référence, un petit clin d'œil avec l'œuvre de Maider Fortuné Curtain, qui est présentée de ce fait en prologue de l'exposition, parce que ça n'est pas une œuvre d'animation, c'est un film. C'est un film dans lequel Maider Fortuné a déguisé d'une certaine manière ses acteurs en silhouette de personnages de dessins animés qu'on voit s'évanouir, partir dans la brume et disparaître, mais qui sont là pour que nous projetions sur leur silhouette noire les souvenirs que nous avons tous dans notre culture collective de ces images de dessins animés de notre enfance. Projection mentale, c'est vraiment l'un des axes essentiels de l'exposition. Vision fugitive au sens de projection mentale, et comme déjà Jessie l'a signalé tout à l'heure, ces projections mentales, ce sont pour nous le souvenir, le fantasme, le rêve et le cauchemar, tout ce qui, comme on dit, traverse l'esprit d'un personnage, et ce qui explique que dans certains films anciens en prise de vue réelle, les réalisateurs aient choisi d'intégrer une séquence d'animation pour justement nous faire comprendre qu'à ce moment-là, nous entrons dans la tête de ce personnage, nous sommes dans une sorte de dialogue intérieur, comme on dit dans la littérature. Alors le souvenir et la mémoire en acte, la mémoire en train de faire revenir à la surface les souvenirs qui auraient tendance à s'effacer, c'est un des thèmes prépondérants de l'exposition. Alors je vous montre très rapidement quelques œuvres qui abordent cette question-là. C'est le film de Thor Oxner qui raconte comment, lorsqu'il avait 5 ans, il a été victime d'un accident où son père conduisait, lui était sur la banquette arrière, son père était au volant et est mort sous ses yeux pendant cet accident. Donc, ce qu'a fait Thor Oxner, c'est que 20 ans plus tard, alors qu'il avait 25 ans, il a rencontré un certain nombre de gens de sa famille et ça l'a amené à se replonger dans ses souvenirs d'enfance, dans ce souvenir particulièrement traumatisant. Il a retrouver des dessins qu'il avait réalisés enfant, et à partir de ces dessins, il a, comme il dit lui-même, reconstruit, hein, vous verrez si vous voyez le film, il s'agit de reconstruction de souvenirs à partir de ça, et c'est à ça que nous fait assister ce film. Le film d'Hirakisawa, Didai, qui pose la question justement de ce qu'a été ce passé, est un film où on voit des objets qui se délitent, qui se fragmentent, qui disparaissent, comme vous le voyez sur cette image, où on entend un disque vinyle qui tourne à vide, comme à la fin du disque lorsque ça bute et qu'il n'y a plus de musique, qu'on entend simplement les micro-sillons qui grattent et qui butent. Et qu'il ne reste plus au personnage que le toucher peut-être pour comprendre le monde. Il s'agit en fait d'un film sur l'amnésie, et où on assiste, mais de manière extrêmement poétique, c'est très marqué par la peinture surréaliste. Je vous ai dit que la peinture, elle refaisait surface sous plein de films qu'on présente. C'est très marqué par les images surréalistes. C'est un film qui nous fait assister à la disparition de tous les repères visuels, les repères auditifs, et ne reste plus, semble-t-il, que la possibilité de toucher les micro-sillons du disque ou les éléments du monde. Donc, réflexion sur l'amnésie à laquelle il a été amené après à avoir lui-même, et ça explique certaines images du film où on voit du sable qui s'écoule, un peu comme un grand sablier, mais aussi il a découvert un moyen de thérapie de l'amnésie qui se fait en faisant toucher du sable, sculpter du sable, modeler du sable à des amnésiques. C'est à partir de ça qu'il a réalisé ce film. Alexander Chello, dont vous verrez l'œuvre au centre de la grande halle, non pas par une volonté de privilégier un artiste par rapport aux autres, mais parce que il est au cœur, au croisement d'un certain nombre de thématiques centrales de l'exposition. Alexander Chello, contrairement à ce que vous pouvez penser quand vous voyez une image comme celle-ci, ne travaille pas du tout à partir de photographies. Il s'agit de dessins faits entièrement à la main, même s'ils sont ensuite scannés et animés par un logiciel d'animation, mais toute la phase de départ est une phase entièrement manuelle et traditionnelle. La particularité d'Alexander Chello étant que ses dessins sont réalisés entièrement de mémoire, sans aucun aide-mémoire visuel, avec uniquement comme aide-mémoire des enregistrements sonores, ce qui explique que vous ayez un certain nombre de casques qui soient présents dans l'installation. Ce qu'on montre, c'est un film en cours de réalisation, Tirana, qu'il a réalisé lorsqu'il était en Albanie il y a quelques années, invité pour participer à la Biennale de Tirana. Et son scénario, il a souhaité le présenter. Il a souhaité ne pas présenter seulement quelques extraits de films d'animation, mais présenter l'ensemble de son scénario. Donc vous verrez sur les différentes tables, ils correspondent à des extraits différents. Des extraits où on verra aussi la question de la ville et la question de l'architecture qui va être abordée et qui sera un autre de nos axes. Présentation des visions, des projections mentales chez William Kentridge, artiste sud-africain, qui a réalisé à la fin des années 80, au début des années 90, une série de films d'animation traditionnels où le dessin est réalisé au fusain et au pastel. Animation traditionnelle image par image qui nous présente un trio, celui d'un magnat de l'immobilier, Soho Eckstein, de sa femme, que vous voyez ici réunie, mais après un épisode tumultueux où Madame Eckstein est partie avec le personnage de Félix Teitelbaum. Alors, cette histoire de ménage à trois n'est pas évidemment ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que chacun des deux hommes, Félix et Soho, sont en fait des alter-ego dont le comportement est différent par rapport à ce qui se passe à ce moment-là en Afrique du Sud. Et ce à quoi on assiste, vous le voyez dans ces images qui juxtaposent un certain nombre d'images successives, ce à quoi on va assister, c'est à l'effondrement d'un monde qui est un monde basé sur la domination des Blancs et qui se manifeste de manière très très concrète par l'effondrement des empires, des immeubles constituant l'empire de Soho. Et je voudrais insister sur la dimension à la fois d'effondrement, je dirais, personnel dans ce qui se passe, dans le drame que vit Soho, mais aussi drame et en tout cas mouvement, bouleversement politique, Félix apparaissant comme celui qui écoute le monde. Félix listens to the world, étant celui qui écoute le monde, alors que Soho est au début enfermé dans son univers et ne voyant, et on assiste à ses fantasmes. L'autre chose qui est intéressante et qui nous ramène à la question de la rémanence, c'est que Kentridge garde délibérément dans chacun de ses dessins la trace des dessins préalables. Vous le voyez assez clairement dans les trois images du bas. Il dessine donc au pastel et au fusain, il efface, mais il n'efface pas complètement et il garde la même image, et donc chaque image garde la trace des épisodes passés de l'évolution. On voit bien la capacité qu'a l'animation à montrer des évolutions, liées au temps, à montrer des évolutions liées aussi à l'évolution psychologique des personnages. Encore une animation relativement traditionnelle à partir du dessin avec Jan Kopp. Et là, je vous ai annoncé cette question de la ville, cette question de la ville moderne, à la fois comme cadre, évidemment, aux aventures qui peuvent s'y dérouler et que nous présentent les artistes, mais aussi la ville moderne observée du point de vue de la question de l'utopie. Or, l'utopie, c'est aussi une projection mentale. La différence, c'est qu'elle est parfois individuelle lorsqu'il s'agit des utopies portées par certains architectes ou urbanistes dont il va être question. Mais aussi, l'utopie, c'est aussi une projection collective et une projection souvent, hélas, fugitive qui ne se réalise pas, ce qui est bien sûr la définition d'une utopie. La ville moderne, ses espoirs et ses désillusions sont au cœur d'énormément d'œuvres d'animation et donc nous avons souhaité y consacrer un chapitre important de l'exposition. Alors dans le tourniquet de Jan Kopp, c'est une vision, on va dire, relativement optimiste. Jan Kopp a été invité en résidence dans la banlieue de Rouen. Et dans cette cité tout à fait banale, il était là à dessiner tout le temps, puisque vous voyez bien, c'est du dessin là aussi traditionnel, qu'il fait au crayon sur des papiers calques, ce qui explique ce côté un petit peu flou. Et il a rencontré des gens qui lui demandaient ce qu'il faisait. Et c'est à partir de là qu'il a eu l'idée de ce film qui s'appelle Le Tourniquet, qui est un film de quelques minutes, dans lequel on voit progressivement à l'intérieur d'un magasin d'alimentation qui appartient à la chaîne Le Mutant, et on peut penser que le nom de ce magasin a été aussi une source d'inspiration, les mutations vont être en jeu, il nous montre un groupe de garçons de la cité qui vont sur un tourniquet. Ce tourniquet semble à un moment toucher terre, s'envoler, partir dans les nuages. Et on est donc dans une utopie de vivre ensemble, dans une utopie qui nous permet de décoller un petit peu du réel. La vision que l'artiste japonaise Tabaimo a de ce monde moderne est beaucoup plus cynique. Elle nous plonge grâce à un système de projection tournante, comme si on était au théâtre avec une poursuite qui nous permet de suivre les comédiens les uns après les autres. Elle va comme ça focaliser sur un certain nombre de détails, nous révéler des scènes extrêmement banales de la vie quotidienne, mais aussi un certain nombre de drames. Je n'en dis pas plus. J'insiste un tout petit peu par contre sur le film d'animation de Justin Bennett, City of Progress, qui nous montre l'évolution d'une ville. Je vous montre juste trois images et vous allez comprendre le principe. City of Progress démarre par l'affirmation par l'artiste qu'une ville commence comme ce dessin. C'est donc le parallélisme qui est fait entre la construction d'une ville et la réalisation d'un dessin. Une ville commence par ce dessin, au début il n'y a rien, et puis progressivement la ville va se construire, va se détruire aussi, et toute la théorie de Justin Bennett, qui est extrêmement influencée par les écrits de Paul Virilio sur le rapport de la ville à la guerre, sur le rapport du fait que toute invention génère la catastrophe qui va avec, toutes ces évocations des utopies et des dystopies va être centrale dans l'œuvre de Justin Bennett, et c'est vraiment une œuvre qui est pour nous très, très fondamentale dans la mesure où elle explicite ce que d'autres évoquent de manière diverse. Les riches douaniers dont Jessie signalait tout à l'heure qu'ils vont faire ce soir une performance musicale autour d'une double projection, les riches douaniers travaillent à partir de dessins de jeux vidéo. Vous êtes un certain nombre, je suppose, à avoir déjà deviné qu'ils travaillent à partir de GTA 4. Il s'agit donc d'un machinima. Ce que font les riches douaniers, ce sont des machinimas, c'est-à-dire qu'ils utilisent les jeux vidéo et qu'à l'intérieur de ces jeux vidéo, ils vont les transformer. Alors, ils les transforment doublement, au moins. Il les transforme d'abord en ne gardant que le contour, que le trait, ce qui est une pratique qui n'est pas exceptionnelle. Il les détourne surtout de manière idéologique. Dans Grand Theft Auto 4, la ville s'appelle Liberty City, et la ville du migrant solitaire n'est pas, hélas, la ville de la liberté, c'est la ville où on poursuit les immigrants qui sont arrivés à la recherche d'un Eldorado. Je vous invite très très chaleureusement à aller voir Marathon Gravity ce soir. John Gerhardt, je vous en ai déjà montré une image tout à l'heure. John Gerhardt, c'est un travail qui nous a semblé extrêmement intéressant, qui est très différent. On n'est plus dans le dessin, puisque pour réaliser sa maquette 3D, il utilise d'une part des centaines de photographies, d'autre part des données satellitaires. Mais il était indispensable de montrer que l'animation aujourd'hui, ça n'était pas seulement le dessin, même si on souhaitait commencer par le dessin, ne serait-ce que pour rattacher l'exposition à la manifestation des cinétraces dans le cadre de laquelle elle s'inscrit. John Gerhardt travaille donc à partir d'images de bâtiments réels, et il en fait des images virtuelles. C'est une volonté tout à fait affirmée chez lui d'utiliser l'image virtuelle, non pas pour nous faire nous absenter du réel dans des images de fiction, mais de nous montrer le réel en face d'une manière que le cinéma ne pourrait pas nous permettre de faire, parce qu'il tourne autour de ce bâtiment à 360 degrés, ce que le cinéma ne pourrait pas faire, et aussi parce que ces images virtuelles, c'est en fait un programme informatique évidemment auquel il nous fait assister, ce programme informatique, il est réglé sur son horloge à l'heure de Cuba, parce que cette école, comme vous l'avez compris, c'est une école cubaine, une école qui a été construite dans les années 60, au moment où le gouvernement castriste misait sur l'éducation, construisait énormément d'écoles, développait une éducation qui était une priorité de l'État, installait ses écoles aussi au milieu des champs. Et hélas, aujourd'hui, ces bâtiments sont, comme vous le voyez, un petit peu abîmés. Ils n'ont plus les moyens de les entretenir. Alors, on pourrait penser que le discours de Gerhardt est un discours désenchanté, un discours pour montrer que l'utopie ne s'est pas réalisée. C'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que ce que nous dit Gerhardt avec Cuban School, c'est qu'en fait, ces bâtiments, ils sont encore fonctionnels, ce qui était le cas il y a encore quelques mois, quand il a réalisé cette œuvre, il y a à peu près un an. L'école était encore utilisée, il y avait 70 adolescents qui étaient là. Et l'école fonctionnait encore par la débrouillardise et la détermination des techniciens, des enseignants, des élèves qui bricolaient comme ils le pouvaient. Ce dont parle Gerhardt, c'est de la résilience, de la possibilité à faire perdurer des choses vieillies que nous n'avons plus les moyens d'entretenir. Et pour ça, il a introduit au sein de ce bâtiment un petit caretaker, comme on dit très joliment en anglais, un agent d'entretien, une gardienne, appelez-la comme vous voulez en français, c'est de toute façon moins joli, qui entretient ce bâtiment, qui en prend soin, qui s'en occupe, qu'on voit à certaines heures du jour, allumer la lumière, les éteindre, descendre l'escalier, et qui est un personnage dont certaines apparitions sont réglées de manière très précise par les horloges, d'autres sont beaucoup plus aléatoires, comme dans certains jeux vidéo que vous pouvez connaître. Je dirais juste deux mots de Jeannie Guillou. Elle aussi fait référence à l'habitat standard, pour nous inviter à nous en échapper et à aller voir de l'autre côté, peut-être sur la mer, j'en dis pas plus, puisqu'elle sera là cet après-midi pour vous en parler, vous raconter comment ça a été fait, cette boîte qui s'ouvre aussi dans l'espace de l'exposition. Autre technique utilisée, autre réflexion peut-être sur la ville moderne et ses utopies, mais autre affirmation que cette technologie contemporaine ne vaut rien si l'homme n'y occupe pas la place centrale. Le très beau travail de Jim Campbell, dont nous présentons trois œuvres qui appartiennent à la même série, Motion and Rest. Motion and Rest fait lui-même partie d'une série qu'il appelle des œuvres en basse résolution. Ce sont des œuvres qui sont réalisées avec des LED, et c'est un programme électronique. Jim Campbell a une formation d'électronicien, il est lui-même son propre ingénieur, et c'est un programme électronique qui fait varier l'intensité de chaque LED et qui permet comme ça de dessiner une silhouette et une silhouette mobile. Les silhouettes qu'on voit dans cette sous-série qui s'intitule Motion and Rest, ce sont des silhouettes d'handicapés, de gens qui trébuchent, de gens dont la silhouette est hésitante, dont la démarche est hésitante, et qui parfois s'arrêtent parce qu'ils sont fatigués, d'où le titre. Vision peut-être la plus désenchantée, la plus pessimiste de l'exposition, mais encore une fois, je ne vous parle pas de toutes les œuvres. Celle de Kelly Richardson, qui est une artiste canadienne très marquée par la culture picturale, elle aussi, des peintres canadiens, groupe des Sept notamment, pour ceux à qui ça dit quelque chose. Magnifique paysage romantique, mais dont on voit bien, réalisé en image de synthèse, et dont on voit bien qu'on assiste à une sorte d'image de fin du monde, puisque c'est une pluie de météorites qui vient faire rideau entre le spectateur et ce beau paysage. La seule chose que nous verrons à l'image, le film dure 30 minutes, vous n'y resterez peut-être pas pendant toute la durée du film, la seule chose qui se passe, ce sont des variations de lumière extrêmement lentes, extrêmement douces, beaucoup plus rapides à d'autres moments, qui font, et puis le travail du son, qui font planer sur ce paysage un avant-goût de fin du monde, même si les petits oiseaux y chantent encore. Donc je crois, je vais peut-être terminer là-dessus, parce que ça sera une vision plus optimiste que celle de Kelly Richardson. Dans le film de Kelly Richardson, vous ne verrez pas une seule silhouette, alors que vous en verrez, même si elles n'apparaissent pas tout le temps, vous verrez ce caretaker de John Gerhardt apparaître à certaines heures. Vous verrez dans le film de Christian Rizzo, qui n'a l'air d'être qu'un paysage, un paysage qui se transforme en ville, mais vous verrez à la fin du film, ou des deux, puisqu'il y en a deux qui sont présentés en parallèle, apparaître une petite silhouette de danseur qui a été enregistrée en motion capture et qui n'est autre que Christian Rizzo lui-même, pour nous rappeler que, comme il le dit, il n'y a pas de paysage sans homme. Je crois qu'il s'agit d'une exposition en fait très humaniste, je veux bien la revendiquer comme telle, une exposition qui rappelle que sans l'homme, tout ça ne sert pas à grand-chose, que ces techniques, elles sont obsolètes, et il y a même un artiste, Clinton, qui joue sur l'obsolescence des machines. Et c'est aussi ce que rappelle le travail d'Alexander Schellow. Il dit, si je dessine de mémoire, c'est parce que nous sommes à une époque où nous déléguons notre mémoire à nos ordinateurs. C'est donc toute la question des risques de cette délégation, la disparition de l'homme au premier plan, la disparition de sa mémoire active et le fait qu'on s'en remette à nos machines qui, de toute évidence, inquiètent les artistes d'aujourd'hui. Et ce qui me semble intéressant, c'est qu'on n'est pas du tout dans une vision passéiste. Le travail de John Gerhardt est très clair là-dessus. On n'est pas du tout dans une vision passéiste. On utilise les nouvelles technologies, on voit tous les avantages qu'elles ont et en même temps, on les utilise pour mettre en garde aussi contre certaines dérives. Voilà, je ne peux que vous inviter à aller voir les œuvres entièrement. Je vous remercie pour votre attention et je laisse la place.